OK. Ce matin, le titre du message que j'aimerais de partager avec vous, c'est « Comment vivre selon le cœur de Dieu pour notre nation? » Et le thème vraiment que Dieu a placé sur mon cœur pour l'année 2024, c'était vraiment ça, c'est de vivre notre vie selon le cœur de Dieu. Et de vraiment connaître la profondeur du cœur de Dieu. Et ce matin, je veux parler un peu de ce sujet-là concernant le cœur de Dieu pour notre nation. Et ça s'applique aussi pour toutes les nations. Je sais qu'il y a des gens de différentes nationalités ici. Mais si je vous demanderais la question, cette question-ci, quelle est votre première réaction lorsque vous entendez les nouvelles qui se produisent dans notre pays? Et surtout au sujet de la politique. Honnêtement, là, c'est... est-ce que vous avez une réaction de vouloir murmurer un peu, de vouloir critiquer un peu? Hein? Je crois que si nous sommes tous honnêtes, là, hein, on a cette réaction-là. Et plus que de prier, je dirais. Hein? Okay. Quelle est la réaction de Dieu, vous croyez, lorsqu'il voit tout ce qui se passe dans notre monde, dans notre pays, dans notre nation? Vous savez, je crois qu'il y a un sentiment, qu'il y a un mélange dans le cœur de Dieu lorsqu'il voit tout ce qui se passe. Il y a un sentiment de colère contre tout ce qui détruit sa création. Son pays, en fait, le Canada et toutes les nations, ça appartient à Dieu, vous savez. Je crois que Dieu, oui, Dieu déteste le mal, mais je crois qu'il y a aussi dans le cœur de Dieu un sentiment de compassion et d'amour dans son cœur. Vous savez, lorsque nous passons beaucoup de temps avec une personne, souvent on devient de plus un peu comme la personne avec qui on passe du temps, hein, comme un couple qui se marient, on se connaît, on devient un peu plus l'un comme l'autre. Mais, vous savez, lorsque nous passons du temps avec Dieu, qu'on se rapproche de Dieu, du cœur de Dieu, bien, notre cœur devient également comme le cœur de Dieu. Et nous développons, nous aussi, je crois vraiment que nous développons, nous aussi, une sainte colère contre tout ce qui vient voler, détruire, tuer la création de Dieu. Ce que Dieu a créé pour la vie. Et nous développons aussi une compassion, un amour comme Dieu a dans son cœur pour notre monde. Vous savez, nous avons un très beau pays au Canada. Est-ce que vous êtes... On est bénis et nous devons remercier Dieu pour sa grâce, pour sa bonté sur notre nation et le privilège que nous avons de vivre au Canada. Quelques semaines passées, j'ai eu la chance de... il y a plusieurs étudiants qui ont gradué dans notre région à Bathurst. Et puis, moi et Valérie, nous avons soupé, un souper de graduation avec des personnes qui viennent du Congo. Et en fait, on a été bénis parce qu'ils nous ont donné un bref cours d'histoire du Congo. Et c'était très intéressant. Et ils nous ont dit que le Congo, en fait, c'est un pays extrêmement riche en ressources naturelles. Et pourtant, la majorité de la population vit dans la pauvreté en raison de la corruption, vous savez. Et en fait, ce cours d'histoire, c'est comme ça que je l'appelle, ce cours d'histoire, ça nous a aidé, moi et Valérie, d'avoir encore une plus grande appréciation pour notre pays. Malgré les faiblesses, vous savez, qu'il y en a. Et je crois, en fait, que la direction dans laquelle notre pays semble se dirige en rejetant les valeurs que nous retrouvons dans la parole de Dieu, ça ne rendra pas les choses meilleures pour l'avenir de notre pays. À moins que nous connaissions un réveil spirituel, un retour à Dieu. Et ceci doit être notre prière pour notre pays. Amen. Et ce matin, j'aimerais tenter de répondre à la question « Comment vivre selon le cœur de Dieu pour notre nation? » Et je voudrais voir avec vous trois responsabilités que Dieu nous confie en tant que disciples de Jésus-Christ et aussi en tant qu'habitant, citoyen canadien, et en fait, ça s'applique à toutes les nations. Et je crois que qu'est-ce que je vais vous partager ce matin, c'est notre appel. Et nous ne devons pas l'oublier. Nous sommes citoyens, oui, du royaume de Dieu, mais nous sommes aussi des citoyens d'une nation et nous avons des responsabilités. Dieu nous donne une responsabilité envers notre pays. Et parfois, nous pouvons l'oublier. Et je crois que souvent, nous l'oublions. Et ce message ici, c'est un rappel pour chacun de nous de notre responsabilité. J'en ai parlé un petit peu mercredi soir passé, pour ceux qui étaient là, je vais l'approfondir un petit peu ce matin. Trois responsabilités que Dieu nous confie. La première est celle-ci. Et dans chaque église, ça change ces choses-là. Ça fonctionne jamais pareil. OK. Trois responsabilités que Dieu nous donne. Et la première responsabilité qu'il nous confie, c'est de prier et intercéder pour notre nation. Et dans l'apôtre Paul, lorsqu'il a écrit à Timothée, il a dit ceci. Alain, peux-tu me dire comment ça fonctionne? Est-ce que je pèse ou est-ce que je pèse ici? Ou est-ce... Oh, OK. Ah! OK. Si vous avez votre Bible, j'aimerais que vous puissiez suivre avec moi. Sinon, vous pouvez suivre à l'écran. Mais c'est ce texte ici qui dit, dans 1 Timothée 2, au verset 1 jusqu'au verset 6. L'apôtre Paul, il écrit et il dit ceci. « J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. » Et il continue en disant, « Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. » Si je vous poserais la question, que nous dit ce passage concernant les désirs de Dieu pour notre nation? Dieu désire que tous soient sauvés, que tous viennent à la connaissance de Jésus-Christ et reçoivent sa grâce dans leur vie et qu'ils puissent avoir la vie éternelle. Vous êtes d'accord avec moi? C'est le désir de Dieu. C'est le cœur de Dieu. Il ne faut pas l'oublier. Quelle est la responsabilité que Dieu confie à son peuple ici pour leur pays, même pour ceux qui gouvernent? Hein? Dieu nous donne la responsabilité, en fait, de prier et d'intercéder. Vous savez, à ce moment-là, à cette époque-là, lorsque l'apôtre Paul a écrit ces paroles, la vie n'était pas facile pour les croyants. Les gouvernements, les rois, les gouverneurs n'étaient pas favorables à l'Évangile. Paul, en fait, et plusieurs autres disciples avaient été mis en prison. Et ça peut bien que Paul était en prison aussi. Et presque tous les apôtres sont morts comme martyrs. Il avait de grandes persécutions contre les chrétiens à ce moment-là. Et Paul leur dit de prier pour eux. Et je vous dis ceci parce que prier pour les autorités, les rois et ceux qui nous gouvernent, à cette époque-là, vous savez, ça ressemblait beaucoup plus à une prière pour nos ennemis, pour leurs ennemis, que pour leurs amis, que leurs alliés. C'était ça, vous savez. Et pourtant, Paul leur dit, inspiré par le Saint-Esprit, qu'ils devaient prier avant toute chose, qu'ils devaient prier pour eux. Et Paul, ici, il cite quelques raisons, plusieurs raisons pourquoi nous devrions prier dans cette direction-là. Et nous devrions prier, oui, afin que nous puissions vivre une vie paisible, tranquille, honnête et en toute piété. Et ceci, c'est la volonté de Dieu pour notre pays. Amen. Que nous puissions vivre de cette façon, que la paix, la prospérité, l'honnêteté, la piété, le respect de Dieu puissent régner. Et nous devrions prier, intercéder continuellement pour notre nation, pour ces choses-là. Et nous devons aussi prier pour que ceux qui nous gouvernent, qu'ils puissent gouverner, qu'ils puissent avoir dans leur cœur le désir de gouverner dans la droiture et la justice et le respect de Dieu, qu'ils recherchent premièrement le bien du peuple. Nous devrions toujours prier pour ceux qui nous gouvernent, afin qu'ils puissent avoir la crainte et le respect de Dieu dans leur cœur. Nous devrions prier aussi pour que Dieu puisse intervenir dans nos élections. Amen. Afin que la meilleure personne soit établie pour diriger son peuple. Que Dieu intervienne pour éliminer aussi les mauvais dirigeants. Amen. Nous devrions prier dans cette direction-là. Jusque ça, on n'a pas trop de difficultés à prier dans cette direction-là, vous savez. Mais maintenant, vous savez, nous devrions aussi prier pour le salut de ceux qui nous gouvernent, pour tous les hommes. Et ça, parfois, ce n'est pas toujours facile, parce que des fois, c'est comme prier pour des ennemis, pour des personnes qui ont des valeurs contraires à ce que nous avons. Des fois, c'est de prier pour des personnes qui nous persécutent. Et c'est plus difficile de prier pour des personnes qui nous persécutent. N'est-ce pas? Et pourtant, Jésus, il nous dit, vous savez, Jésus nous dit dans Matthieu 5, il dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent afin d'être les fils de votre Père céleste. Amen. Et je crois que c'est bon de se rappeler de ce que Jésus nous a dit, vous savez. C'est la volonté de Dieu que nous intercédons pour notre nation et que nous prions pour toutes les personnes qui demeurent au Canada, amis et ennemis, pour tous les saints, pour tous les croyants, pour nos amis, vous savez, pour ceux qui nous gouvernent, afin que nous menions une vie paisible et afin que ces personnes puissent venir à la connaissance de la vérité en Jésus-Christ et qu'ils soient sauvés. C'est notre responsabilité. Quelqu'un a dit un jour, l'avenir de notre pays n'est pas dans les mains de nos gouvernements, mais dans les mains de ceux qui prient et qui intercèdent. Et c'est vrai. Et vous connaissez bien le passage dans 2 Chroniques 7, 14 qui dit, « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Et je crois vraiment, vous savez, si nous voulons vivre notre vie selon le cœur de Dieu pour notre nation, nous devons premièrement prier pour notre nation. C'est la volonté de Dieu parce que c'est le désir de Dieu que tous soient sauvés. Nous devons prier que Dieu envoie un réveil dans notre nation. Vous savez, j'ai entendu quelque chose deux semaines passées qui m'a vraiment béni. Le district des Maritimes, il y a une rencontre à tous les mercredis midi, un temps de jeûne et de prière. On se rencontre sur le Zoom. Et il y a quelqu'un qui a dit quelques semaines passées, il a dit, ça fait longtemps que nous prions que Dieu envoie le feu, tu sais, que Dieu envoie le réveil. Mais il dit, la flamme est allumée. Il dit, la flamme est allumée. Et lorsque nous entendons, je ne vous partagerai pas tout, mais il y a beaucoup de témoignages, il y a beaucoup de choses qui se passent dans notre district que nous voyons Dieu intervenir, des gens venir à la foi en Jésus-Christ. Et je crois que ce n'est pas fini. C'est certainement pas fini. Amen. Et Dieu se prépare d'intervenir, et pas seulement dans notre nation, mais dans d'autres pays aussi. Mais nous devons prier et intercéder, vous savez. Et vous savez, peut-être que Dieu a besoin de travailler notre cœur, de réaligner notre cœur, afin que lorsque nous entendons qu'est-ce qui se passe dans notre monde, que pas seulement que nous avions une tendance à murmurer, mais que aussi ça nous amène sur nos genoux et de prier pour notre pays avec la compassion de Dieu dans notre cœur. Il y a quelqu'un qui a dit, si nous prierions autant que nous critiquons, je crois que ça irait beaucoup mieux dans notre nation. Et il y a quelqu'un qui a dit, si nous prierions beaucoup plus que nous critiquions, ça causerait un réveil. Amen. Dieu veut bénir notre nation. Et dans son cœur, il nous sait pourquoi il nous appelle à prier. Ça, c'est notre première responsabilité. Notre deuxième responsabilité que je veux voir avec vous ce matin, c'est de briller la lumière. Briller la lumière de Dieu. Lorsque l'apôtre Pierre a écrit sa lettre, il a écrit ceci. Si vous avez votre Bible, vous pouvez tourner dans 1 Pierre, le chapitre 2, à partir du verset 9, nous lisons ceci. Il écrit au peuple de Dieu, il dit, « Vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté, afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu compassion, vous avez maintenant obtenu compassion. » Et il continue en disant ceci. Bien-aimés. Nous sommes des bien-aimés, nous aussi, hein? Pas juste vous. Bien-aimés, je vous encourage, en tant que résidents temporaires et étrangers sur la terre, à vous abstenir des désirs de votre nature propre qui font la guerre à l'âme. Ayez une bonne conduite au milieu des non-croyants, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous fassiez le mal, ils remarquent votre belle manière d'agir et rendent gloire à Dieu le jour où il interviendra. Allez. Dieu désire, comme on vient de voir, sauver les habitants. Il veut que tous viennent à sa connaissance et qu'ils soient sauvés. Dieu désire éclairer notre nation. Dieu, il veut que sa lumière brille pour dissiper la noirceur, le mensonge qui règne sur notre nation. Et c'est premièrement par la manière de vivre de son peuple qu'il vient éclairer la nation ici. Combien de vous, je vous poserai la question, c'est à travers le témoignage d'une vie transformée de quelqu'un que vous êtes devenu plus curieux à rechercher, à connaître Jésus, à vous approcher de Dieu, à découvrir qui était Jésus. Combien de personnes ici, c'est à travers le témoignage d'une vie transformée, d'une personne, hein, que vous êtes approché de Dieu? Hein? Je vois plein de mains. La plupart de nous, c'est comme ça que ça s'est produit. Je sais que pour moi, c'est vraiment comme ça que ça s'est produit. Je voulais rien savoir. Mais c'est par l'amour inconditionnel de quelqu'un, c'est par la générosité de quelqu'un, la gentillesse de quelqu'un qui me démontrait de l'amour, puis je ne savais pas pourquoi il me démontrait de l'amour, parce que moi, je ne démontrais pas trop d'amour. Mais il continuait, il persévérait, vous savez, et il me parlait de Jésus, puis je trouvais ça bizarre. Et un peu plus tard, c'est par la transformation, la délivrance d'une personne qui a donné sa vie à Jésus-Christ, qui a été complètement changé, délivré de plein de choses, j'ai commencé à dire, il doit y avoir quelque chose de vrai, quelque chose de puissant. Et je n'entendais pas parce que mon cœur était fermé, mais je voyais les choses. Et tranquillement, mon cœur était en train de changer. Et ça, c'est la lumière qui brille. Vous savez, Dieu nous dit que nous formons une race élue, hein, dans le texte qu'on vient de lire, des prêtres royaux, nation sainte, un peuple racheté, afin de proclamer les louanges. Et nous sommes appelés à apporter la lumière dans notre monde. Vous savez, Dieu ne se soucie pas seulement de nous, mais aussi de ceux autour de nous qui périssent. Et parfois, nous pouvons l'oublier. Si vous ne dites pas « Amen », dites « Aïe, aïe ». Parfois, nous pouvons l'oublier que nous avons une responsabilité d'apporter la lumière dans le monde. Et ça peut faire une grande différence dans la vie de quelqu'un. Comme qu'il y a des gens qui ont apporté la lumière dans nos vies, puis aujourd'hui, nous sommes ici, puis nous pouvons louer Dieu, puis chanter que nous sommes bénis. Jésus a dit ceci, vous savez. Jésus a dit dans Matthieu 5, il dit, « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur son support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Et il dit que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. Vous savez, nous ne sommes pas seulement appelés à recevoir le salut en Jésus-Christ et à être sauvés pour l'éternité. Notre salut, ce n'est pas une affaire seulement personnelle. Comme notre monde essaie de nous le dire, on entend beaucoup ça dans notre monde aujourd'hui. Que garde, ça c'est ton affaire, c'est ta foi, garde ça pour toi-même, ne dérange pas personne. Savez-vous que selon un sondage qui a été fait, plusieurs chrétiens aujourd'hui croient que nous ne devrions pas déranger les autres personnes avec notre foi en Jésus. Que ce n'est pas bienséant, en fait, d'essayer de convaincre quelqu'un de donner sa vie à Jésus-Christ pour qu'il ait la vie. Il y a beaucoup aujourd'hui de croyants même qui ont été influencés par cette pensée dans notre monde, qu'on devrait, c'est notre affaire, puis on devrait laisser ça là. Et c'est vrai que chacun croit ce qu'il veut, ça c'est vrai, vous savez, mais ça n'enlève pas notre responsabilité, vous savez, que Dieu nous donne d'apporter la lumière et de partager le nom de Jésus. Êtes-vous avec moi? En fait, vous savez, quand j'ai entendu ce sondage-là, ça m'a surpris. J'ai dit, ça se peut-tu? Oui, ça se peut. Parce que notre monde nous dit ceci. Garde ton affaire. Non. Dieu nous dit le contraire. Nous avons une mission, une œuvre à accomplir pour aider notre nation à voir la lumière, à voir Dieu. Et c'est tout d'abord par notre conduite, par notre manière d'agir, par nos actions, par nos œuvres de bonté, de générosité, notre amour inconditionnel, par le fruit de l'Esprit, par une vie de droiture et de pureté et d'intégrité, que nous apportons la lumière dans le monde, et non seulement par nos paroles. Amen. Et ce n'est pas compliqué d'apporter la lumière. En fait, ce n'est pas compliqué, nous avons simplement besoin de rechercher par la grâce de Dieu à vivre selon le cœur de Dieu, selon la parole de Dieu. Vous savez, quand je dis selon le cœur de Dieu, selon la parole de Dieu, ça veut dire la même chose, mais ça veut dire d'aller encore plus loin. Des fois, nous pouvons lire la parole de Dieu et nous pouvons l'appliquer d'une manière très, très, comment je pourrais dire? Très pratique. OK, je vais aller pratico-pratique. Mais le cœur de Dieu, vivre selon le cœur de Dieu, c'est vraiment d'aller encore plus loin. Oui, c'est de mettre en parole, en pratique la parole de Dieu, mais c'est aussi de partager son cœur. Est-ce que vous êtes avec moi? Et Dieu nous appelle à aller là. L'apôtre Paul a dit ceci aux Philippiens. Il dit, « Faites toutes choses sans murmure ni hésitation afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. » Amen. Vous savez, c'est plus facile de dire le mal qui est fait le bien qui devrait être fait que de faire le bien que Dieu nous appelle à faire. Mais la lumière brille à travers les actions et la manière d'agir beaucoup plus que par nos paroles. Et c'est ce que l'Écriture nous dit. C'est ce que l'Écriture... En anglais, sometimes I do speaking in English, especially with my wife. She's English. Mais en anglais, on dit « talk is cheap ». Et c'est pour ça, vous savez, que notre manière d'agir doit accompagner notre vie. Je crois que c'est François d'Assise qui a dit « Prêche l'Évangile et si tu as besoin, utilise des paroles. » Amen. Il vous dit ceci, le désir dans le cœur de Dieu pour notre nation, c'est que le monde, notre nation, puisse voir son caractère, voir sa sainteté, voir son amour, voir sa miséricorde, voir sa grâce, vous savez, voir sa lumière, voir sa sagesse. Et c'est par nos vies transformées que Dieu fait briller sa lumière dans notre monde. Et il ne faut pas oublier ceci. C'est une responsabilité que nous avons. Vous savez, nous avons un rôle à jouer, oui, dans la prière pour intercéder pour notre nation, oui. Et nous avons un rôle aussi à jouer pour apporter la lumière. Et je vous dis ceci parce que parfois, peut-être que vous êtes comme moi, peut-être que non, là. Mais parfois, ça m'arrive, tu sais. C'est comme si on donne au Seigneur toutes les responsabilités de faire tout ce qu'il y a à faire, tu sais. On prie, Seigneur, c'est toi qui vas tout faire, tu sais. Mais Dieu nous dit que nous avons une responsabilité aussi dans notre vie pour influencer, pour apporter la lumière. Est-ce que vous m'aimez encore ce matin? OK. On devrait être bon pour la troisième responsabilité comme ça. Amen. La troisième responsabilité que je veux voir avec vous, que Dieu nous confie ce matin envers notre nation, c'est de prêcher la bonne nouvelle. Prêcher la bonne nouvelle. Jésus a dit ceci à ses disciples, vous savez, en les quittant, hein, dans Marc 16. Il dit, « Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. » Ça, c'est une bonne parole pour toi, Rose, ce matin. Hein? Amen. Il dit, oui, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront le démon. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Alléluia. Dieu, il désire que la bonne nouvelle et la vérité en Jésus-Christ soient proclamées dans notre nation. Et c'est notre responsabilité de la prêcher. Il dit, allez et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Vous savez, Dieu ne nous demande pas de faire ce que nous ne pouvons pas faire. Mais il nous donne la grâce de faire ce qu'il nous appelle à faire lorsque nous choisissons de lui obéir. Toujours. On ne peut pas faire des miracles. Mais Dieu peut faire des miracles. Et c'est après que les disciples allèrent prêcher la bonne nouvelle partout que le Seigneur, ça nous dit, travaillait avec eux, confirmait sa parole et il faisait les miracles. Amen. Et c'est comme ça que ça fonctionne dans le royaume de Dieu. C'est à nous que Dieu a confié la responsabilité de déclarer la bonne nouvelle de l'Évangile et non aux anges. Oui, Dieu peut utiliser les anges, Dieu peut se révéler directement aussi, et Dieu le fait, en fait, dans certaines circonstances. Mais la responsabilité première, c'est vraiment à nous que Dieu la donne d'aller prêcher la bonne nouvelle avec la force et la grâce que Dieu nous donne. Le message de Dieu pour notre nation, vous savez, c'est avant tout une bonne nouvelle. Êtes-vous d'accord avec moi? C'est avant tout une bonne nouvelle. Et moi, je suis de la pensée que nous devrions annoncer premièrement la bonne nouvelle avant d'annoncer la mauvaise nouvelle. Souvent, hein, on dit aux gens, « OK, j'ai deux nouvelles pour toi, j'en ai une bonne puis une mauvaise. Hein? Lesquelles tu veux entendre premièrement? » Il y a des gens qui disent la mauvaise, il y a des gens qui disent la bonne, hein? Ça dépend. Bien, moi, je suis d'avis qu'on devrait premièrement prêcher la bonne nouvelle. Dieu est venu dans la personne de Jésus-Christ nous offrir le pardon de nos péchés, nous offrir la vie éternelle, une vie abondante en lui. C'est un don gratuit qu'il nous offre dans son amour, si nous voulons humblement le recevoir par la foi. Et ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Et même Dieu vient vivre en nous. Il vient et il veut nous libérer de nos chaînes qui nous tiennent prisonniers, qui nous tiennent esclaves. Il veut nous libérer, nous transformer, guérir nos cœurs brisés. Il veut nous utiliser pour sa gloire, nous restaurer, nous bénir. C'est vraiment une bonne nouvelle. Vous savez, souvent je dis ça, c'est presque trop beau pour être vrai. Mais c'est vrai. Et il y a des milliers et des milliers de preuves que oui, c'est vrai, que ça confirme que c'est vrai. C'est la raison pourquoi je crois, vous savez, que les disciples de Jésus-Christ sur la terre devraient être les personnes, en fait, les plus joyeuses sur la planète. Parce que nous sommes riches à craquer. Malgré les circonstances difficiles que nous traversons aussi, c'est vrai, il y a un temps pour pleurer aussi. Mais l'apôtre Paul, il dit, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Et je suis de la conviction que Dieu nous appelle de proclamer la bonne nouvelle en Jésus-Christ avant de proclamer la mauvaise nouvelle du jugement de Dieu contre toute injustice et contre tous ceux qui ne veulent pas se repentir et recevoir le pardon de Dieu en Jésus-Christ. » C'est leur choix. Mais je suis aussi, vous savez, de la conviction que de prêcher la bonne nouvelle, ça n'élimine pas notre responsabilité de prêcher toute la parole de Dieu. De prêcher la bonne nouvelle, et il y a une mauvaise nouvelle aussi pour ceux qui refusent Jésus-Christ dans leur vie. Et il y a des faux enseignements aujourd'hui qui sont propagés dans notre monde et qui déclarent qu'il n'y a plus de péché, qu'il n'y a plus de conséquences au péché. Et c'est faux. C'est absolument faux. Le désir et le cœur de Dieu pour tous les hommes, c'est qu'ils soient sauvés. Et pour être sauvés, ils doivent réaliser qu'ils ont besoin d'un sauveur, qu'ils sont perdus, afin qu'ils puissent se repentir et croire en l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. C'est comme un médecin, un docteur, vous savez, qui dit à son patient qu'il n'est pas malade alors qu'il est atteint du cancer. Le docteur qui fait ceci ne fait aucune faveur à son patient. Il serait préférable qu'il lui dise la vérité pour qu'il puisse agir en conséquence et recevoir les soins et le remède qu'il a besoin. Amen. Pour que notre nation comprenne que la bonne nouvelle est réellement une bonne nouvelle, il faut leur dire aussi le diagnostic du péché. Il faut prêcher la bonne nouvelle. L'apôtre Paul, il dit ceci dans Romains 10, 14. Il dit, « Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? » Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Je ne sais pas pour vous, mais quand je lis ces paroles-là, particulièrement dernièrement, ça vient me chercher ou ça vient me parler profondément. Et je voudrais juste poser quelques questions, répondez pas, mais juste pour nous faire réfléchir. Est-ce que nous prêchons réellement la bonne nouvelle dans notre communauté, dans notre région, dans notre famille? Est-ce que nous prêchons réellement la bonne nouvelle? Est-ce que nous recherchons vraiment à partager l'Évangile de toutes les manières possibles, avec le cœur de Dieu, afin que les gens puissent entendre. Puis vous savez, souvent les gens, pour entendre et venir à la foi en Jésus-Christ, ça prend plus qu'une fois. Combien de personnes ici, vous êtes venues à Jésus-Christ la première fois que vous avez entendu l'Évangile? Ah, Lucille. Amen. Ah, il y en a quelques-uns. Quelques-unes. Amen. Et la plupart de nous, ça a pris du temps. Ça a pris du temps. Ça a pris que quelqu'un soit persévérant, quelqu'un qui s'assise avec nous, oui, puis qui prie pour nous, puis qui démontre par sa vie un changement, puis qui nous partage le nom de Jésus. Et pour plusieurs d'entre nous, au début, nous l'avons peut-être traité de fou, d'insensé, ou de fanatique, ou quelque chose comme ça. Mais avec le temps, nous avons finalement compris. C'est souvent comme ça que ça se passe, vous savez. Et je crois que c'est encore comme ça dans notre... Et c'est pour ça, vous savez, c'est pour ça que si nous voulons vraiment voir les gens venir à Jésus-Christ à la foi, il faut qu'on soit persévérant avec eux. Il ne faut pas qu'on se décourage, mais qu'on continue de leur partager le nom de Jésus. Là où ils sont, de répondre à leurs questions. Et je vous simplement pour cette question, est-ce que nous avons vraiment à cœur le salut des gens autour de nous? Est-ce que ça brûle dans notre cœur? Ma prière, vous savez, c'est que Dieu ranime cette passion-là dans notre cœur, cet amour-là pour les gens, pour les voir venir à Jésus-Christ. C'est ma prière pour moi, c'est ma prière pour vous aussi, les gens de Edmundston, les gens de Shediac, les gens de Beresford, en fait, que Dieu ranime, parce que je crois, vous savez, je crois que nous pouvons mettre de côté cet aspect-là, cette responsabilité-là, en s'attendant que Dieu va faire son œuvre dans les cœurs. Nous avons une part dans le salut des gens. Je crois que le Seigneur se prépare, qu'il y a une moisson qui se prépare à rentrer dans le royaume de Dieu, dans nos familles, avec nos amis, dans nos communautés. Est-ce que vous croyez ça? Je crois aussi, vous savez. Et j'aimerais vous encourager. Je veux vraiment vous encourager, vous savez, Je vous encourage à demander au Seigneur qu'il remette cette passion et qu'il mette des gens sur votre... puis qu'il vous donne le courage de partager le nom de Jésus. Et je crois que si nous le faisons, vous savez, nous allons être surpris de voir des gens venir au Seigneur. Je sais que... Je radote un petit peu, comme on dit là, parce que mercredi soir, c'est vraiment ça que j'ai partagé, vous savez. C'est le temps de la moisson. Je crois que la moisson est là. Et je vous encourage. Et même, j'ai partagé dimanche soir, mercredi soir, c'est ça, concernant la possibilité peut-être d'offrir un cours alpha dans les maisons. Quelques personnes se mettent ensemble, vous savez, et pour simplement inviter quelques personnes qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ. Et peut-être c'est des gens que vous avez priés, mais je vous encouragerais de demander au Seigneur s'il voudrait que vous puissiez ouvrir votre maison pour offrir un petit cours alpha. Le matériel est là. La formation, c'est vraiment bien fait. Il y a plusieurs moyens de faire d'évangélisation, comprenez-moi bien. C'en est un moyen, ce n'est pas le seul, mais c'en est un. Et je vous demanderai de prier. Seigneur, est-ce que tu voudrais, Seigneur, que j'ouvre ma maison, puis que peut-être 3-4 chrétiens, 4-5 chrétiens ensemble, qu'on se mette et qu'on prie, que Dieu nous aide, que nous utilise pour amener quelqu'un à Jésus-Christ. Les inviter, répondre à leurs questions, prier pour eux. Combien de personnes vous êtes prêts de prier pour ça? Je ne vous demande pas de le faire, là. Mais combien de personnes vous êtes prêts de prier? Seigneur, montre-moi, Seigneur, si tu m'appellerais à ouvrir ma maison pour que je puisse partager la bonne nouvelle avec quelqu'un afin qu'il puisse être enrichi en toi, comme je suis enrichi en toi. Mais je vous demande juste de prier, là, OK? Vous avez pas besoin de dire, oui, je vais ouvrir ma maison. Mais ça commence par la prière, parce que si on n'est pas prêt de prier, ça ira pas plus loin. Amen. Bénis le Seigneur. Et je sais qu'il y en a qui vont, que vous allez prier. Moi, je prie en tout cas. Je prie que ma maison, je vais ouvrir ma maison aussi, avec mon épouse Valérie. Et je prie qu'il y a des foyers qui vont se faire. Un jour, il y a quelqu'un qui a osé nous parler de Jésus, nous témoigner. Et aujourd'hui, nous sommes riches en Jésus-Christ. Il y a une moisson dehors. Et je sais que je me répète, mais je crois parce que parfois l'Église, nous oublions. Nous oublions que nous avons une responsabilité de prêcher l'Évangile à l'extérieur. Et je ne dis pas ça, je dis ça pour vous encourager. OK. Là, je vais aller plus loin parce qu'on se prépare avant que l'eau vienne froide pour toi, Rose, là. Hein? Trois responsabilités que Dieu nous donne pour vivre notre vie selon son cœur pour notre nation. C'est quoi la première responsabilité? C'est de prier. Et je veux vous féliciter, l'Église d'Edmundston, parce que vous êtes une Église qui a à cœur de prier. Et je sais que vous priez, puis vous n'arrêterez pas de prier. Continuez. La deuxième responsabilité, c'est quoi? C'est de briller. C'est de briller la lumière de Jésus. Seigneur, fais de moi une lumière. Remplis mon cœur de ton amour, Seigneur, de ta grâce. Voulez-vous dire ça avec moi? Seigneur, transforme. Oh, vous voulez le dire maintenant? On va le dire maintenant, oui. Seigneur, fais briller ta lumière en moi. Transforme-moi. Afin que le monde puisse te voir. À travers de moi. Voir ton cœur. Voir ton amour. Voir ta grâce. Que tu as manifesté pour le monde entier en mourant sur la croix pour nos péchés. Amen. Et la troisième responsabilité, c'est prêcher la bonne nouvelle. On va prier encore. Ça va bien, ça va bien. Priez avec moi. Seigneur Jésus, remplis-moi de ton esprit. Un esprit de force, d'amour et de sagesse, afin que je puisse témoigner ton nom. Prêcher la bonne nouvelle de ton amour dans ma communauté, dans ma famille, dans ma région. Seigneur, remplis-moi et utilise-moi pour conduire d'autres personnes à ta connaissance. Je t'en prie, Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Savez-vous, au Canada, il y a 40 millions. Le 1er janvier 2024, il y avait 40 769 personnes, 69 890 habitants qui habitaient au Canada. Et le Seigneur veut que toutes ces personnes-là puissent entendre la bonne nouvelle. Et son cœur, c'est qu'ils viennent à la connaissance. Et il veut nous utiliser. Pensez-vous qu'il peut nous utiliser? Il va nous utiliser. Il va nous utiliser. Et un jour, je crois, vous savez, ça fait, les deux dernières fois que je viens ici, on a un baptême d'eau. La dernière fois, c'était Nathan. Mais ce n'est pas juste Nathan qui s'est fait baptiser, c'est moi aussi. Et aujourd'hui, c'est Rose. Et je crois que si nous continuons à prier et que nous continuons à rechercher que Dieu nous transforme à son image et que nous brillons la lumière et que nous osons faire un pas de foi et prêcher la bonne nouvelle, que nous allons voir une multitude de personnes passer par les eaux du baptême, confesser leur foi et déclarer comment est-ce que Jésus a transformé leur vie à la gloire de Dieu. Amen. Amen. Merci Seigneur. Et à ce temps ici, on a déjà prié, gloire à Dieu. À ce temps ici, je vais demander à Rose d'aller te préparer. Je vais inviter l'équipe de louanges de venir. Tu peux aller te préparer, Rose, moi aussi.